le Lab U.
Les bibliothèques universitaires et Radio U présentent
Sciences et Société. Les tests génétiques permettent de prédire avant tout symptôme précurseur une maladie qui pourrait frapper un patient. La maladie n'est ni certaine, ni immédiate. Une thérapie préventive est parfois sans risque, parfois très lourde, parfois impossible. Et ces diagnostics peuvent être portés sur une personne, sa famille ou un embryon. De telles prédictions peuvent sauver, mais aussi plonger des patients dans le désarroi. Pour débattre de ces questions, la bibliothèque de l'UBO a invité Claude Firec, chef de service du laboratoire de génétique au CHRU de Brest, directeur scientifique de l'établissement français du sang et conseiller scientifique régional de l'INSERM. Philippe Ouvrard, professeur agrégé de philosophie et membre du comité d'éthique du CHRU de Brest. Et Quentin Lepluard, doctorant en droit au LabLex à l'UBO. Nous avons entamé notre réflexion dans l'émission précédente en traçant les contours scientifiques et juridiques de la médecine prédictive. Dans ce deuxième numéro, nous abordons les questions éthiques associées, en commençant par une question sur le statut d'un embryon qui pourrait être porteur d'une maladie génétique. La parole à Philippe Ouvrard.
Alors, sur la question de l'embryon spécifiquement, enfin, c'est plus vaste que la médecine prédictive.
Oui.
On a un statut intermédiaire entre un objet, par exemple 4 cellules, et un sujet, c'est-à-dire en fait une personne. Et les réponses qui ont été apportées par les différents comités d'éthique, et notamment le comité français, c'est de dire c'est une personne humaine potentielle. Mais ça ne résout pas le problème, ça fait que nommer une difficulté, ça veut dire qu'on a, avec un embryon, voire un fœtus, quelqu'un qui potentiellement... Enfin, on a un être qui potentiellement deviendra quelqu'un. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un? On ne sait pas. Est-ce que c'est un sujet? D'un point de vue juridique, d'après ce que j'ai compris, il faut attendre la naissance pour que quelqu'un soit déclaré comme sujet de droit, de façon à éviter que quelqu'un, enfin un fœtus par exemple ou un embryon, soit détruit avec la qualification de meurtre. Donc toute la difficulté, il y a pas mal de réflexions là-dessus en philosophie sur le statut de l'embryon, mais disons, il me semble qu'il faut prendre en compte la relation entre l'enfant à naître et son entourage. C'est-à-dire que si les parents, si le couple commence à avoir un projet d'enfant, il y a une attente, et on commence à considérer la personne comme si elle était quelqu'un. Enfin, l'embryon, pardon, comme si elle était quelqu'un. Mais l'être en question n'est pas encore quelqu'un, puisque sa biographie, par exemple, n'a pas commencé. Pour s'y repérer, disons, il y a une distinction qui est assez facile à faire. On peut la faire de différentes façons, mais c'est, de ce point de vue-là, c'est assez pratique. Pour traduire le mot « vie », la langue grecque ancienne avait deux mots. Il y avait le mot « zoé », qui veut dire la vie organique, la vie biologique, la vie matérielle d'un organisme vivant. Et il y a « bios », qui veut dire la vie biographique. Et donc, on peut dire qu'un embryon est « bios ». La question se pose de savoir s'il est... Il est « zoé », mais la question se pose de savoir s'il est « bios ». On a affaire à un être vivant. La question est de savoir si on a affaire à un sujet. On a affaire à un être vivant en formation. La question est de savoir si on a affaire à une personne.
Si je résume, enfin, je ne vais pas me risquer à résumer, mais commentaire. Le fait d'être bios, c'est une histoire. Mm-hmm. C'est une histoire qui peut commencer même avant la naissance, bien avant la naissance, parce que c'est le projet parental. Et par contre, par exemple, une naissance non désirée, etc., voire non consciente, ça arrive à le déni de grossesse, au moins jusqu'à un certain stade, on ne peut parler que de... Enfin, ça pourrait être un repère, en tout cas, pour dire là, on est dans Zoé, c'est-à-dire de la vie indéniable, hein, des cellules.
mais qui, en toute absence d'histoire, en toute absence de relation, en toute absence de société autour de cette vie, quoi.
Oui, alors, il y a un certain nombre de distinctions à faire, en fait. Pour savoir si quelqu'un est une personne, il faut se demander si elle est une personne pour elle-même. Et là, on bute sur une difficulté, c'est que la, si on, c'est lié à la mémoire que l'on a, c'est-à-dire aux premiers souvenirs. Ma personne commence avec mes premiers souvenirs. Avant mes premiers souvenirs, les autres ont pu me dire que j'ai fait ceci, cela, etc. Mais s'ils me disent quelque chose qui est faux, je ne peux pas dire qu'ils ont tort. Je ne peux pas rectifier, parce que je n'ai pas l'expérience intime d'avoir été ce qu'ils disent que j'ai été. Et donc, je ne suis pour moi-même une personne que depuis mes premiers souvenirs. Ça, c'est dans le rapport à soi. Mais d'un point de vue juridique, quelqu'un doit être traité comme une personne, avec le statut d'une personne, dès lors qu'il est né, parce que dès lors, il devient un sujet de droit. Et il y a une autre difficulté, c'est qu'est-ce qui se passe avant la naissance ? On a un être qui n'est pas encore pour lui-même une personne, qui n'est pas encore un sujet de droit parce qu'il n'est pas encore né, mais qui peut être interprété ou vu comme une personne dès lors que les autres le regardent comme une personne. Par exemple, si les parents commencent à parler de l'enfant à naître, à élaborer dans leur imaginaire un désir d'enfant, un projet d'enfant, à décorer la chambre, à chercher un prénom, etc. L'enfant à naître, c'est-à-dire l'embryon, le fœtus, n'est pas encore réellement une personne, mais il commence à être considéré comme s'il était une personne. Et là, il y a comme une sorte de préhistoire de la personne qui a eu lieu avant même que je ne sois dans un rapport à moi.
D'accord. Bien. Deuxième temps, est-ce que vous, participants, Claude, Quentin, Philippe, vous auriez... Enfin, moi, j'ai encore d'autres questions, en réserve. Vous auriez des questions à poser à vos camarades participants à cette table ronde, un généticien, un juriste, un philosophe.
Des questions, on en a beaucoup. Hein. Je veux dire, tout le champ de la génétique, finalement, nous interroge sur... De ce fait, la France a été quand même probablement un des pays pionniers en termes de, je dirais, d'organisation et des lois de bioéthique, hein, puisqu'à partir de 1994, il y a eu un encadrement, quelque part, de nos pratiques, à la fois par une organisation extrêmement structurée, à la fois des praticiens qui sont des généticiens, qui sont réellement soumis à des examens particuliers, enfin donc qui sont qui ça dépend d'agréments qui sont spécifiques, donc on des laboratoires qui sont aussi accrédités, qui sont très spécifiques. Donc c'est une discipline qui est extrêmement extrêmement encadrée en France. Donc on peut très clairement pas faire n'importe quoi. Et à la fois les juristes et à la fois les collègues qui s'occupent d'éthique, avec tous les 4 ans à peu près, tous les 5 ans, eh bien, revoit finalement les nouveaux problèmes posés par la science et la médecine qui s'est développée, parce que ça va forcément beaucoup plus vite que la réflexion humaine. Et donc les progrès, tous ces progrès que j'ai balayés tout à l'heure rapidement des développements technologiques, de nos connaissances, qui vont entraîner des dérives potentielles, eh bien, il faut y mettre des barrières, il faut y mettre des freins. Et on voit bien aujourd'hui que, pour prendre des exemples un peu caricaturaux, le clonage qui a été réalisé chez quelques moutons au départ, là, dans les années 96, qui était à peu près vraiment une expérience... scientifique extraordinaire, hein, d'avoir réussi à faire un être vivant à partir de cellules qui avaient déjà finalement vécu. Mais ce clonage, il a été fait non seulement chez les moutons, mais chez pratiquement toutes les espèces animales aujourd'hui. Et très clairement, Ça a été fait chez le singe et il est très clair qu'on pourrait probablement le faire chez l'homme. Donc là, il y a des barrières qui sont importantes à mettre justement pour que l'on s'interdise ce clonage. Quoi. Donc c'est pour vous montrer que vraiment le développement extraordinaire de la technique, des outils, des connaissances, nous impose finalement et impose à la société de mettre des barrières, des recommandations, et ça c'est extrêmement important, avec autour de la table des représentants de la société justement. C'est pas à nous médecins finalement de dire à un moment donné ce qu'il faut faire ou pas faire. Finalement les chercheurs ont toujours envie d'aller plus loin et de voir un petit peu ce qu'il y a au sommet de la montagne, mais à un moment donné il faut aussi dire que le sommet de la montagne il faut peut-être pas y aller, quoi.
D'accord, alors, bon, une question à vos collègues, mais moi je peux la poser peut-être. Alors oui, il y a la politique du fait accompli, en fait, de certains, ça peut arriver, de certains chercheurs, qui, bon, notamment quand il y a des intérêts privés en cours.
Oui.
Alors comment faire, moi je m'adresse peut-être alors aux juristes, peut-être d'abord, comment, parce qu'on a des chercheurs qui sont prodigieusement inventifs, et qui est... Moi, je serais chercheur, j'aurais envie de jamais m'arrêter à avancer. Comment faire? Comment fait le droit? Comment font les juristes pour encadrer, justement, cette activité? Alors, vous connaissez le droit français, vous connaissez peut-être pas le droit étranger, mais vous pouvez vous faire une idée, peut-être. Comment ça se fait en France? Et comment, peut-être, si on a une idée, ça peut se faire dans les pays qui sont... qui encadrent moins ces recherches.
Ouais. Mais justement, c'est très compliqué. Du fait de la mondialisation actuelle, le droit français, la vocation du droit français à régir ces questions-là, elle est assez faible. D'aucuns disent même que c'est un droit symbolique, parce que si on interdit aujourd'hui des procédés tels que le clonage, bon, le clonage, c'est un peu moins fort, parce qu'il y a un certain consensus international sur la question, mais que ce soit sur les questions éthiques, la gestation pour autrui, les tests, justement, les tests de prédiction génétique, qui sont autorisés dans certains pays. Je pense aux États-Unis où c'est totalement légal, où on peut demander sur Internet le test de Google, enfin de la société 23andMe, filiale de Google, qui coûte moins de 100 euros ou moins de 100 dollars, et qui permet d'avoir un certain... certains aperçus de son génome et des prédispositions à certaines maladies, ce qui est interdit en France parce que justement, en recevant ce test, on n'a pas l'accompagnement qui est prévu dans la loi, tout le processus qui est imposé au médecin, qui vise à accompagner la personne qui aurait ces informations brutes là, j'ai tel pourcentage de chance d'être atteint de telle maladie. Ça, aux États-Unis, en tout cas, c'est moins encadré que chez nous. Et de ce fait là, c'est très dur pour le droit, en tout cas le droit français, de d'encadrer ces évolutions-là, parce que on est dans un monde nécessairement international, maintenant on est nécessairement mondial.
Oui, c'est ça, non, on peut...
Avec les différents pays dont la population ne partage pas forcément les mêmes philosophies, les mêmes conceptions de la personne. Là, vous parlez...
on peut acheter des tests dans un autre pays.
C'est ça, bien sûr.
Pour la fécondation, si in vitro, on voit qu'on peut changer de pays, si la législation...
La gestation pour autrui, par exemple, oui.
Ça c'est bien compliqué, oui. Ok. Une question qui est peut-être un peu liée, c'est la recherche, elle est faite dans les laboratoires publics, elle est bien faite, elle est faite aussi dans les laboratoires privés, elle est aussi bien faite. Mais le plus, c'est que il y a de l'investissement, ça coûte très cher, et il faut rentabiliser les investissements. Par exemple, si vous voulez faire une banque de gènes, enfin, j'ai pas idée des prix, mais j'imagine que pour totaliser une banque de données sur des gènes dont on dispose et pour les traiter, etc., les rendre traitables par des logiciels, ça coûte très très cher. Et donc, si une entreprise privée met de l'argent pour stocker des résultats de tests génétiques dans les banques, dans les banques de données, elle veut pouvoir les exploiter, les vendre, en tout cas en tirer une valorisation. Ça peut se faire par exemple en vendant des données générales anonymisées à des sociétés d'assurance qui veulent des infos sur l'évolution peut-être génétique. Ça peut se faire enfin, de d'autres façons. Moi, je ne suis pas dans le commerce hein, de la génétique, mais il y a multiples façons de valoriser. Donc, vous qui êtes médecin, vous qui êtes juriste, peut-être moins vous, y a-t-il, on assiste-t-on au regard de la nécessité d'avoir de l'argent pour faire de la recherche à une privatisation de la recherche en génétique ? Est-ce que ça bouge ? Est-ce que...
Oui, c'est une question difficile, en fait. Il y a très clairement, et en particulier dans ce domaine de la génétique, des besoins extrêmement importants de moyens pour pouvoir avancer et pour pouvoir, je dirais, continuer à améliorer les connaissances hein, que l'on peut avoir en développant dans le secteur académique. Très clairement aussi, les sociétés comme Google, comme ce qu'on appelle les GAFA, sont très, très intéressés pour avoir même anonymisé des banques de données extrêmement importantes pour définir des profils finalement de sujets qui sont à risque de faire de l'hypertension artérielle, de faire des phlébites, de faire du diabète. Et l'idée un petit peu, c'est effectivement en fonction de ces profils génétiques de pouvoir avoir, en particulier aux États-Unis, hein, c'est moins vrai chez nous, avoir finalement des assurances santé qui soient finalement corrélé à votre profil de risque, quelque part. Hein. Et donc, ça, c'est des choses qu'on voit se mettre en place, effectivement.
C'est possible avec des données anonymisées, en plus. C'est ça qui est intéressant.
Ah, c'est possible. C'est pour ça qu'ils sont intéressés pour récupérer un certain nombre de données qui permettent de définir des profils. Et là, on rentre dans la médecine prédictive, c'est-à-dire que ce sont des données probabilistes, finalement, qui permettent de définir, pour chacun d'entre nous, finalement, un profil avec un risque plus ou moins important et donc finalement peut-être une cotisation plus ou moins importante à payer pour assurer votre santé. Et donc on n'est plus dans ce que nous finalement dans notre culture de, je dirais, d'une médecine solidaire en fait. Hein.
Oui, en plus, voilà. Oui, c'est ça. Et puisque l'assurance au départ c'est fait pour, c'est l'idée de mutualisation. Tout le monde tombe pas malade en même temps, tout le monde n'est pas malade, mais la caisse collective fait qu'on s'occupe des personnes qui ont eu la malchance d'être malade. Mais si on segmente, on change de monde, forcément.
Pour rebondir, du coup. Moi, ça me fait penser à la phrase qu'emploie souvent Jean-Michel Bols quand on lui pose cette question-là par rapport aux GAFAM. C'est, enfin, il dit que quand Google met 10 milliards d'euros de dollars sur la table, ça se fera forcément. Et c'est assez vrai. Il y a aujourd'hui un réel problème avec les GAFAM ou leur équivalent chinois quant à la régulation de leurs pratiques matériellement face à une entreprise qui, dont le chiffre d'affaires représente le PIB d'un petit pays. Il y a un problème pour réguler les activités de cette entreprise. Et de par son caractère plurinational, multinational, se pose le problème de la régulation de ces risques-là. Donc effectivement, elles peuvent aller plus vite et avec moins d'entraves que les chercheurs, moins d'entraves entre guillemets, moins de contraintes législatives notamment, que les chercheurs en France en tout cas par exemple. Donc, il y a ce problème-là aussi.
Et pour radicaliser la question ultime pour moi serait que penser de la généralisation des tests on pourrait, parce que là, j'ai lu tout à l'heure, là, avec une prise de sang, on peut, d'une façon... Enfin, c'est encore cher, et ça sera moins cher dans l'avenir. Avec une prise de sang, on peut avoir le génome entier d'un embryon, par exemple, si c'est une femme enceinte qu'on prélève, hein, c'est ça. Hein. Mais on pourrait aussi avoir les progrès de la médecine font qu'on pourra bientôt avoir le génome facilement. Et donc, on pourrait se dire, super, parce qu'on va généraliser les tests, et donc on verra mieux les choses qui arrivent. Puisque prévenir, c'est aussi faire de la prévention, c'est aussi guérir. Faisons-le. Alors, je voudrais recueillir l'avis de tous les trois sur une telle option qui serait proposée ou débattue quelque part. Faut-il généraliser généraliser les tests ? Peut-on imaginer l'instauration d'un dépistage génétique généralisé et systématique de la population ? voilà, afin de détecter chez chaque individu le risque de développer une maladie ou une autre. Parce que des maladies, en plus, il y en a un catalogue.
Oui, c'est des questions extrêmement importantes. Hein. La réflexion en France et aux États-Unis, en Angleterre, elle est déjà plus avancée que chez nous là-dessus. C'est l'ouverture vers des tests préconceptionnels pour certaines maladies graves.
Même préconceptionnels. Hein.
C'est-à-dire que des couples qui ont un projet d'enfant, aux États-Unis, par exemple, il est possible d'avoir accès. Si vous pouvez payer, il est possible d'avoir accès à des diagnostics de mucoviscidose, il est possible d'avoir accès à des diagnostics d'amyotrophie spinale, enfin deux ou trois maladies très graves pour lesquelles on n'a pas de traitement aujourd'hui et qui sont accessibles pour des couples qui ont un projet d'enfant. Donc, c'est des concepts qui ont été aussi proposés lors des dernières révisions, enfin, qui sont en cours de proposition dans le cadre de la révision des lois de bioéthique et qui seront discutés au cours de l'automne prochain, je pense, en France. Alors, je ne suis pas sûr que ça passe dans les décrets en France, mais en tout cas, c'est le comité d'éthique les a proposés. Donc vous voyez, ça ouvre finalement tout un... à travers deux ou trois maladies graves que l'on peut effectivement aujourd'hui cibler, ça ouvre aussi la possibilité très largement finalement d'avoir l'étude du génome entier d'un homme et d'une femme qui ont le projet de s'unir pour avoir des enfants. Donc là on a parlé des maladies graves et donc sur lesquelles il peut y avoir un certain consensus, mais vous imaginez bien que, et c'est déjà le cas malheureusement dans certains pays, le choix du sexe va être, oui, pouvoir être possible très précocement, au-delà de ça, eh bien, certaines mutations qui donnent finalement une petite anomalie, mais qui est finalement parfaitement viable, et puis sur lequel effectivement il y a beaucoup de gens sur Terre qui vivent avec cela sans qu'ils soient très très perturbés. Donc on pourrait arriver à accéder à une demande finalement, d'interruption ou d'interruption de grossesse pour des marqueurs génétiques qui ne sont pas des mutations associées à des maladies graves, par exemple, quoi. Donc il y a des risques de dérive là qui sont extrêmement importants. C'est pour ça qu'à ce moment-là, effectivement, à la fois les juristes et les philosophes sont importants et les lois de bioéthique sont importantes pour encadrer cela, quoi. Mais on est vraiment en situation de pouvoir faire énormément de choses aujourd'hui.
Mais ce serait même parce que finalement la variabilité génétique est consubstantielle de la théorie d'évolution, mais de notre nature.
Ah oui, nous sommes tous différents.
Oui, nous sommes tous différents. Mmh. Et donc la différence, à un moment, on la mesure par rapport à un écart qui serait énorme. Et là, on est dans quelque chose qui peut devenir effrayant ou au contraire utile. Mais bon. Alors, l'avis de ces messieurs, Monsieur Philippe, peut-être, allez-y.
Oui. La perspective d'un dépistage génétique généralisé peut prendre des formes assez différentes. On peut imaginer, par exemple, l'équivalent d'une carte vitale, c'est-à-dire une carte de risque génétique, par exemple, qui serait mise en place, imaginons, dans tel ou tel état. Et ça peut présenter des dangers d'assignation des gens à ce risque-là. Quelque chose qui n'est pas encore arrivé, les gens peuvent le comprendre en disant « ça, c'est moi ». S'identifier aux stigmates ou aux risques présentés. Et puis, par rapport au diagnostic préconceptionnel, par exemple, si un couple fait des tests comme ça et reçoit une information négative, ça peut avoir une incidence sur le parcours du couple. Les gens se séparent ou je ne sais pas quoi, pour des raisons qui ne sont pas forcément objectives, qui peuvent être des croyances à un risque que peut-être ils ne réaliseront jamais, mais que peut-être ils réaliseront aussi. Et puis, il peut y avoir aussi ce que j'appellerais une demande sociale, c'est-à-dire qu'à partir du moment où quelque chose est faisable, la société dit, puisque c'est faisable, faites-le pour mon cas. Je veux éviter le risque. Et sous cette demande sociale peut fonctionner comme une sorte d'appel d'air, en quelque sorte, et inciter à des tris, bon, par exemple, pour le préimplantatoire ou des choses comme ça, par exemple. Et une sélection, alors pas forcément yeux bleus, etc., parce que ça, c'est la caricature qu'on donne, mais l'assignation à une sorte d'attente sociale ou de norme sociale qui exclurait d'autres de la population perçus comme n'étant pas dans cette norme. Norme étant ici compris au sens de moyenne, c'est-à-dire de ce que l'on perçoit habituellement comme étant... la norme.
Moi, j'irais plus loin. Enfin, j'ai lu tout à l'heure donc, dans une recommandation du CCNE qui disait que dans le même temps qu'on fait des progrès en médecine prédictive, il faut aussi faire des progrès pour accueillir justement des personnes qui seraient handicapées de par un héritage génétique. Puisque sinon, on pourrait en arriver à penser que les parents qui font des enfants... par exemple, quelqu'un qui a la maladie de Huntington, il peut faire un enfant et son enfant va vivre 40 ans. Et d'autres personnes pourraient s'interroger pourquoi il fait un enfant alors qu'il sait qu'il a cette maladie. Vous voyez ? Et donc, une recommandation du CCNE, c'est de développer l'accueil, aider les familles qui ont des enfants handicapés. Je voudrais poser la question à Quentin.
Oui, la question, c'est surtout pourquoi faire cette médecine prédictive, ce diagnostic généralisé. Si c'est pour faire une sélection, même anténatale, des personnes, donc de certaines personnes qui, par exemple, coûteraient trop cher à la société parce qu'elles ont même le risque de présenter une affection, ça pourrait s'envisager. Dans une conception peut-être,
vous me corrigez si je me trompe,
ou utilitariste.
Économiquement rationnel.
Oui, ça pourrait s'envisager. Mais c'est pour ça que notre conception française, qui est d'une culture égalitaire et humaniste, et voilà, fondée sur l'éthique kantienne, si je ne me trompe pas, du respect de la personne comme une fin, non, c'est pas possible. Et c'est pour ça que c'est interdit en France, dans le Code civil. Hein, on a une interdiction qui est posée, l'interdiction de l'eugénisme, de la sélection des personnes, en fonction de telle ou telle caractéristique. Donc voilà, c'est ça. Mais cette question-là, elle fait écho plus largement à la question de la vie digne d'être vécue. Voilà, la question de la sélection, de voir qu'est-ce qu'on va faire de cette information, de ce texte, de ce test généralisé. Ça fait écho à est-ce que cette vie mérite de vivre ou non.
Là, par rapport à ça, le grand danger, en fait, c'est de croire qu'on est identifié au risque en question. C'est aussi idiot d'identifier quelqu'un à un risque que de dire à quelqu'un normal, tu es un jeune, alors que c'est le fait d'être jeune n'est pas son identité. Il est aussi jeune en ce moment, mais c'est tout. Et à partir du moment où on essentialise les catégorisations des gens, on a tendance à enfermer les gens dans des définitions, à leur laisser croire qu'ils se résument à ce qu'on dit qu'ils sont. Et on a le même problème pour le risque en médecine prédictive. Les gens peuvent croire qu'ils sont identifiés à ce risque-là. Et l'un des biais qui parasite le raisonnement, c'est qu'on a une sorte de croyance en une sorte de déterminisme absolu. Dans l'imaginaire collectif, on a tendance à se dire un gène, c'est une cause par rapport à un effet qui est moi. Et comme une sorte de logiciel dont je serais le déploiement. Et comme si c'était inévitable. Alors d'une part, c'est pas inévitable. D'autre part, c'est pas une relation causale stricte. Souvent, les maladies sont multifactorielles, complexes, etc. Et puis, dernier point, la survenue de la maladie en question est, dans beaucoup de cas, quelque chose qui tient du hasard, qui peut arriver ou ne pas arriver. Et donc l'idée que on serait, piloté par nos gènes, est une idée qui, je crois, scientifiquement est fausse, et juridiquement est dangereuse, et philosophiquement est fausse également.
Moi, ça m'amène une autre question sur l'accompagnement, parce qu'on n'en a pas parlé beaucoup. On a bien dit que l'accompagnement est nécessaire. Comment ça se passe quand vous consultez, enfin, comment on accompagne aujourd'hui quelqu'un à qui on va annoncer un test génétique le résultat d'un test qui est compliqué à annoncer et qui pose problème. Ouais.
Je crois qu'il y a un petit peu de façon de choses. Il y a ce qu'on appelle les diagnostics de certitude. C'est-à-dire que oui. Le test génétique nous permet, un peu ce que vous évoquiez tout à l'heure, de dire qu'on a la mutation qui est là et on sait comment les choses vont se dérouler et on peut vraiment avoir la certitude que, dans 20 ans, dans 30 ans, la maladie va être là. Donc là, il y a toute une prise en charge et la maladie de Huntington a été caricaturale et exemplaire à cet égard. Ça nous a permis de mettre en place finalement des consultations multidisciplinaires, d'accompagnement pour toutes ces patients à risque, où on les accompagne pendant 6 mois, 8 mois avec un neurologue, un psychiatre, un généticien, un pédiatre, et à travers plusieurs consultations pendant 6 mois, eh bien, on va cheminer, on va voir si la personne est en situation de pouvoir finalement faire une prise de sang et avoir le résultat. Et ça ne fera qu'au bout de 6 mois. Donc, vous voyez, c'est tout un accompagnement, dans ce cas un peu extrême, hein, extrêmement codifié, lourd, pour être bien certain qu'on va aller jusqu'au bout de la demande, finalement, du patient de savoir ou de ne pas savoir, finalement, cela. Donc, alors là, on est devant un diagnostic de certitude. Et l'autre exemple qui est aujourd'hui a beaucoup envahi nos consultations de génétique, c'est tout le domaine de l'oncogénétique, c'est-à-dire des mutations que l'on a trouvées dans des gènes de susceptibilité au cancer, et en particulier au cancer du sein chez la femme, cancer de colorectal chez l'homme et chez la femme aussi. Donc c'est ce cancer aujourd'hui avec des gènes qui ont été identifiés, BRCA1, BRCA2, et dont on sait qu'une femme porteuse d'une mutation dans ces gènes-là, au cours de sa vie, mettons jusqu'à 80 ans, elle a à peu près un risque de 80% de développer un cancer du sein ou de l'ovaire. Donc là, on est dans une situation finalement où on va accompagner, je dirais, la personne qui n'est pas malade, mais qui est avec un risque important, et on va mettre en place une prévention, un suivi avec de l'imagerie, avec des échographies régulièrement, tous les ans, pour justement faire en sorte que s'il se passe quelque chose, on soit extrêmement vigilant pour agir très vite. Donc là, c'est aussi une prise en charge, mais de prévention que l'on va pouvoir mettre en place. Et c'est valable aussi pour un autre domaine, ce qu'on appelle le syndrome de Lynch, où on a des mutations dans des gènes de réparation de l'ADN. Et là aussi, lorsque les gens ont une mutation dans ces gènes-là, eh bien, ils ont un risque de 60-70% de faire un cancer colorectal, par exemple, au cours de leur vie. Donc là, on va les suivre et on va effectivement leur faire des coloscopies régulièrement, on va les prendre en charge. Et ça va permettre de sauver des vies, hein, parce que finalement, un tout petit cancer qui va démarrer, tout de suite, on va pouvoir intervenir. Quoi. Oui, vous voyez que la chose est un tout petit peu différente. Si on est devant un diagnostic de certitude, où là, on va pouvoir faire un accompagnement très codifié, et un diagnostic de prévention. Et alors là, quelque part, il y a des gens qui vivent cette épée de Damoclès, finalement, de manière assez, je dirais, en disant, bah, écoutez... j'ai beaucoup de gens que je vois en consultation qui me disent, vous savez, je peux traverser la route et me faire écraser aussi. Enfin, qu'ils le vivent finalement de manière assez, je dirais, positive, entre guillemets, enfin, qu'ils l'assument. Et puis, il y en a d'autres où on a besoin de leur proposer qu'un psychologue les accompagne et tout ça, parce que ça devient difficile à vivre. Et on va jusqu'à ce que vous avez vu avec Angelina Jolie, qui a choisi de se faire enlever les seins, par exemple, et de communiquer là-dessus. Donc, vous voyez que c'est cet accompagnement, il peut être différent selon les gens, et pour finalement faire une prévention qui peut aller du suivi avec de l'imagerie jusque de la chirurgie, quoi.
qu'elle était accompagnée. Ouais.
Merci à Claude Férec, chef de service du laboratoire de génétique au CHRU de Brest, directeur scientifique de l'établissement français du sang et conseiller scientifique régional de l'INSERM. Merci à Philippe Ouvrard, professeur agrégé de philosophie et membre du comité d'éthique du CHRU de Brest. Merci à Quentin Lepluard, doctorant en droit au LabLex à l'UBO. Dans le prochain et dernier numéro sur la médecine prédictive, nous nous focaliserons sur l'évaluation de la gravité d'une maladie, le contrôle de la recherche, le droit de savoir ou ne pas savoir, et le statut de la vulnérabilité humaine à partir des questions du public. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U et sur les pages des bibliothèques universitaires de l'UBO.